Voici Hélène Roussel pour le journal. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Il était l'un des deux derniers compagnons de la Libération encore en vie. Daniel Cordier, 100 ans, est mort hier. Mémoire de la France libre. Les mots d'Emmanuel Macron qui annonce un hommage national pour celui qui fut secrétaire de Jean Moulin. On en reparlera aussi avec votre invité Patricia Martin à 8h10 avec l'historien Olivier Wieworka. Les autres titres, Hélène.
Trois jours pour trancher. Mardi 20h, Emmanuel Macron à la télé pour donner les contours d'un confinement sans doute allégé. Dans la crise, il y a aussi ceux qui tirent leur épingle du jeu. Jackpot pour la FDJ. Et puis adopter un flamant rose, en voilà une idée de cadeau. C'est rigolo et écolo, on vous dit tout à la fin du journal.
Et puis un mot sur l'invité à 8h20 ce matin, ce sera Franck Riester, le ministre délégué chargé du commerce extérieur.
France Inter.
Au départ, monarchiste et maurassien, quand Pétain s'incline devant l'Allemagne nazie, il a 19 ans. Deux ans plus tard, il devient le secrétaire du chef de la résistance, Jean Moulin. Daniel Cordier est mort hier, il avait 100 ans, lui qui fut aussi l'un des tout premiers Français à rallier Londres et le général de Gaulle. Daniel Cordier se souvient au micro de Jean Lebrun sur France Inter. Nous sommes le 18 juin 2018.
Il y a quand même une chose que j'ai faite et que je recommencerai exactement pareil, c'est m'engager à Londres en 1940. Ça, c'est la seule chose de ma vie dont je suis sûr que je le recommencerai toujours. Et maintenant, je suis très heureux. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que je sais que dans quelques jours, semaines, j'ose pas dire années, je n'y serai plus, et ça sera fini, et c'est merveilleux. Voilà.
Daniel Cordier, c'était sur France Inter en juin 2018, un orfèvre de la mémoire qui aura fait de sa vie un combat perpétuel pour la vérité et la liberté. Les mots hier de la ministre déléguée à la mémoire, Geneviève Darrieussecq. Emmanuel Macron annonce qu'il y aura un hommage national aujourd'hui. Un seul compagnon de la Libération est encore en vie, il s'appelle Hubert Germain, centenaire lui aussi.
Le pic de la deuxième vague est sans doute derrière nous. Et une question ce matin, le confinement sera-t-il allégé?
L'épidémie de Covid recule sûrement, mais lentement. En une semaine, les cas de contamination ont chuté de 40%. Mais attention, rappelle Santé publique France, le virus circule encore beaucoup. 32 000 patients toujours hospitalisés. C'est pour cela que le gouvernement ne parle surtout pas de déconfinement, plutôt d'une adaptation du confinement, avec encore et toujours les attestations en vigueur, les bars et les restaurants fermés, peut-être le retour d'un couvre-feu. En revanche, la réouverture des commerces pour la fin de semaine prochaine se profile, avec une jauge de 8 mètres carrés par client. Déverrouillage aussi en vue pour le monde de la culture. Mais sous quelles conditions? Le gouvernement a trois jours pour trancher avant l'allocution à la télévision d'Emmanuel Macron mardi 20h. Simon Le Baron.
Si les chiffres sont bons, il parlera lundi ou mardi pour permettre aux commerces de préparer leur réouverture. S'ils sont mauvais, il s'exprimera plutôt en fin de semaine. Voilà ce que nous disait l'Élysée il y a quelques jours. Ce sera donc mardi. Faut-il en déduire que le président est optimiste, qu'il se prépare à annoncer une bonne nouvelle aux commerçants et aux responsables religieux, voire aux professionnels de la culture, moyennant un protocole sanitaire renforcé? L'entourage du chef de l'État reste prudent. On a déjà vu la situation se dégrader brutalement après cinq jours consécutifs d'amélioration. Emmanuel Macron va donner une trajectoire aux Français, des perspectives à court terme, pour les petits commerces, les cultes et peut-être la culture donc, à moyen terme, pour les fêtes de fin d'année et à plus long terme pour les bars, les restaurants et pour la campagne de vaccination à venir. Nous sommes sur la bonne voie, assurait hier le Premier ministre Jean Castex, mais ce sont les indicateurs épidémiologiques du week-end qui vont donner le la des annonces présidentielles.
Simon Le Baron évoque le vaccin. L'Europe comme les États-Unis pourraient le commercialiser d'ici la fin de l'année et Paris se prépare à vacciner massivement. Les équipes d'Anne Hidalgo en visioconférence hier pour parler logistique, une campagne qui ciblerait d'abord les plus de 65 ans et les plus fragiles. Avec un objectif pour début janvier, 700 000 personnes vaccinées, soit un tiers des Parisiens immunisés. À propos d'immunité, une étude britannique vient confirmer celle des Américains. Tous ceux qui ont été contaminés par le Covid seraient protégés au moins sur 6 mois. En attendant le vaccin, il faut bien vivre avec le virus. Exactement ce que font les judokas. avocate française en ce moment en plein championnat d'Europe à Prague. Clarisse Abgué-Nienou, qui continue de faire des étincelles, cinquième sacre après 9 mois sans compétition. Et Margot Pinault, qui décroche hier encore une première place en moins de 70 kilos. Tout ça alors que les JO ont été reportés à l'été prochain, qu'il faut aussi vivre dans une bulle et sans public. Impression croisée de deux championnes, c'est un reportage de Stéphanie Moura.
À Prague, nos championnes d'Europe ont remporté leur finale en moins de 52 secondes, un timing qui laisse penser que les Bleus sont imperturbables. Et pourtant,
socialement, il n'y a rien.
Clarisse Agbegnénou a longtemps hésité avant de participer à ces championnats d'Europe. Après 9 mois d'arrêt, les tests, le confinement à l'hôtel ou l'absence de public l'ont marqué.
Un sport comme le judo, même là, on aime bien se prendre dans les bras ou au moins de se serrer la main. Et c'est frustrant quand même, toutes ces choses-là, où on ne peut pas avoir ce côté un peu humain et sensible.
Margot Pinault, en revanche, n'a pas vécu la compétition de la même façon.
Heureusement que j'ai fait une compétition avant, à Budapest, où il n'y avait vraiment personne.
La double championne d'Europe des moins de 70 kilos veut retourner la situation à son avantage.
On doit s'adapter, et puis ça nous a aussi permis de travailler autre chose, travailler différemment. Ça peut être aussi un point fort sur le long terme.
Le long terme pour Margot Pinault, ce sont les Masters dès janvier et le maximum de compétitions qui pourront se tenir parce que...
Au moins, on peut combattre.
Alors que Clarisse Agbegnénou, qui vise l'or à Tokyo, n'a programmé aucune échéance pour les prochains mois.
Je vais m'entraîner, je vais voir en janvier ce qui va se passer. J'étais pas prête à refaire une année, surtout comme ça. Comme j'étais très très touchée, je préfère y aller au jour le jour.
Plus que jamais, le Covid met à l'épreuve les nerfs des champions.
Stéphanie Moura, coup d'œil en bref sur le Covid à l'étranger. L'Autriche entame un dépistage national pour éviter le confinement à Noël. La plus grande ville du Canada, Toronto, placée en confinement à partir de lundi pour 28 jours. Et le Brésil qui franchit la barre des 6 millions de cas. Plusieurs explosions ce matin dans le centre de Kaboul, en Afghanistan, des tirs de roquettes, alors que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit faire un point aujourd'hui avec les talibans et le gouvernement afghan sur les pourparlers en cours. La rencontre est délocalisée au Qatar.
Vous avez dit crise économique, eh bien pas pour tout le monde.
Un an après son entrée en bourse, la Française des Jeux explose les scores. Le jackpot avec un gain affiché de 80% pour les 500 000 Français qui ont acheté ses actions. Laurent Kramer.
Alors que les grandes entreprises du CAC 40 affichent une baisse de 7% sur l'année, la Française des Jeux bat des records pour ses actionnaires avec 80% de gains en un an. Si la Française des Jeux a souffert pendant le premier confinement, les investisseurs ont très vite compris en revanche que son activité de pari et de loterie faisait partie des très rares secteurs d'activité totalement résilients et en réalité insensibles au cycle de l'économie traditionnelle, explique Stéphane Palaise, PDG de la Française des Jeux.
Ce qui s'est passé cette année, évidemment, personne ne l'avait prévu. Donc, d'une certaine manière, nous avons testé en direct ce caractère solide et résilient de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises n'ont pas de perspective très claire sur leur capacité de rebond ou ont des situations financières plus compliquées. Et je pense que c'est effectivement pour ça que beaucoup d'actionnaires individuels, 450 000 aujourd'hui, sont à nos côtés et j'espère vont rester à nos côtés.
Les actionnaires toucheront néanmoins un dividende limité. Cette année, la Française des Jeux s'engage à redistribuer dès l'an prochain à l'ensemble de ses actionnaires 80% de son bénéfice net.
Aucun policier, aucun gendarme n'est autorisé, ne sera autorisé à empêcher quelqu'un de filmer. C'est ce qu'on appelle une marche arrière toute. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dû amender l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale pour la faire passer à l'Assemblée nationale hier. Pas de quoi rassurer en attendant ceux qui dénoncent toujours une loi liberticide. Manifestation cet après-midi, 14h à Paris, au Trocadéro. Enfin, c'est une idée comme une autre. Et si au pied du sapin, cette année, il y avait un flamant rose? Bon, d'accord. Pas en chair et en os, je vous rassure. Adopter un flamant rose pour mieux préserver l'espèce, c'est en attendant un joli cadeau. Initiative lancée par la Tour du Valat, Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes. Yann Gallic nous dit tout.
Sur le site monflamant.com, vous pouvez parrainer Popite, une femelle de 21 ans, plutôt du genre voyageuse. Elle a déjà parcouru plus de 7000 km. Ou encore Pat, un mâle plus sédentaire qui préfère arpenter les étangs de Camargue. Les internautes peuvent aussi adopter une famille entière de flamants roses pour une somme comprise entre 25 et 100 euros par an. Chaque parrain reçoit ensuite des nouvelles de son filleul aux longues pattes, car les oiseaux sont équipés de bagues avec un code qui permet de les suivre et de les identifier. L'argent récolté grâce à ces parrains parrainage permet de financer l'observation et la sauvegarde des flamands dans leur milieu naturel. Jean Jalbert dirige la Tour du Vala, l'institut de recherche à l'origine du projet.
Aujourd'hui, cette espèce est en bon état de conservation alors qu'elle a été menacée il y a 40 ans. On estime qu'il y a 50 000 flamants roses en été en Camargue et à peu près la moitié en hiver. Pour autant, cette espèce n'est pas sauvée parce que les milieux dont elle dépend, ces grandes lagunes, ces salins, vous voyez, tous ces milieux littoraux dans lesquels ils trouvent à la fois des grands espaces et leur nourriture, sont en train de disparaître. On a mesuré, par exemple, que depuis 1970, près de la moitié des zones humides du bassin méditerranéen ont été rayées de la carte.
Malgré tout, l'espèce est plutôt bien préservée. Aujourd'hui, près de 500 000 flamants roses sont recensés à travers le monde.
Des flamants pour voir la vie en rose. Parrain d'un petit poppy, Eric, ce serait la classe, non?
Ah ben, je signe, allez, vous me dites combien et c'est fait. Allons-y, au pied du sapin de Noël. Hélène Roussel, vous reviendrez dans une heure avec plaisir. Le temps de ce samedi.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski, aujourd'hui la couleur du ciel ne sera pas la même pour tout le monde.
Ah, exactement, Eric, avec souvent du gris le long de la Manche, en particulier de la Bretagne aux Hauts-de-France, ponctuellement un peu de bruine sur les côtes où le vent sera sensible vers 60 km par heure. En descendant vers le Val-de-Loire, le bassin parisien et Champagne-Ardenne, temps sec, mais le ciel sera souvent assez voilé. Plus bas, une fois les brouillards dissipés, le soleil va largement s'imposer, mais avec beaucoup de vent sur les caps corses vers 100 km à l'heure en pointe. Les températures matinales comprises entre 0 et moins 4 sur un axe sud-ouest, centre, nord-est, Auvergne-Rhône-Alpes vont cet après-midi afficher 14 à 16 degrés sur le bassin méditerranéen, 6 à 9 près de la Suisse et de l'Allemagne et généralement 11 degrés en moyenne sur le reste du pays.